Ainsi, voilà ce qu'il est advenu de cet homme.
Le 8 décembre 1947, Pierre de Gaulle, frère de Charles et président du conseil municipal de Paris, prononce l'oraison funèbre du général Leclerc.
Une tempête de sable dans le ciel d'Afrique, un obstacle imprévu sur lequel s'écrase l'avion désemparé, et Leclerc, le grand Leclerc, est là, corps sans vie, devant Paris, devant la France, en deuil.
La patrie reconnaissante offre au général Leclerc des obsèques nationales. L'émotion est considérable, comme un moment suspendu dans l'histoire du pays, et vous allez comprendre pourquoi dans ce dernier épisode.
Écoutez le général Leclerc.
La France de Gaulle, celle qui a refusé de cesser le feu, retrouve la France de l'intérieur, celle qui a refusé de courber le front.
Lorsque les Français apprennent la mort brutale du général Leclerc, le 28 novembre 1947, dans un crash aérien, le pays tout entier est sidéré. Celui qui a libéré Paris 3 ans plus tôt, le héros de la 2e DB, vient à peine d'avoir 45 ans. Fauché dans la force de l'âge, le choc est immense. D'autant que cette disparition intervient dans un contexte très particulier. En pleine guerre froide, la France s'affronte et se divise entre les gaullistes, les socialistes et les communistes. C'est alors que la mort de Leclerc réactive les souvenirs d'une nation unie dans le combat contre les nazis, un pays qui avait su se rassembler malgré sa complexité et ses différences. Alors que faut-il voir derrière l'émotion nationale des funérailles du général Leclerc ? C'est ce que vous allez découvrir dans cet ultime épisode.
Philippe de Haute-Cloque n'est plus. Le général Leclerc est entré dans la légende.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez La cavale du général Leclerc. Huitième épisode, la crypte des Invalides.
Quel homme était-il ?
Leclerc, c'était le héros, c'était le type pur.
C'était l'efficacité, c'était la loyauté et c'était la rapidité.
Quel homme était-il ?
C'était un homme intérieur, c'était un homme spirituel aussi, je crois.
Pour Leclerc, il suffit !
Adoré de ses hommes à l'égal d'un souverain ou d'un prophète, il avait inspiré l'esprit qui l'animait à toute sa division.
Juif, chrétien, musulman, héritier de la vieille France aristocratique et paysans arabes, ouvriers de la banlieue parisienne, évadés d'Alsace.
Et à Berlin.
Cette épopée de Leclerc, cette épopée de la France libre, chantera toujours sur des syllabes claires et sur des accents de triomphe qui sont ceux du nom de Leclerc de Haute-Cloque.
Il est 10h. La tempête n'a pas cessé depuis que l'avion désemparé du général Leclerc percuta dans un talus aux environs de Colombéchard. Il fait froid.
Le récit débute le 2 décembre 1947 en gare d'Alger. La dépouille de Leclerc est rapatriée du désert algérien à bord d'un train, d'une Micheline précisément. Et sur place, à Alger, le radio-reporter décrit la scène.
L'avant de la Micheline est drapé aux trois couleurs. On distingue à l'intérieur, sabre au clair, les sahariens qui accompagnent les corps depuis Colombéchard. La Micheline va s'arrêter. J'aperçois le cercueil du général Leclerc.
La France entière suit en direct le périple du cercueil de Leclerc qui doit remonter jusqu'à Paris. Et d'abord, il faut traverser la Méditerranée.
9h30, port d'Alger. C'est ici que l'Algérie française va dire adieu au héros du faisan, au libérateur de Paris et de Strasbourg. Sur le terre-plein du quai d'Antibes, les troupes de la garnison. Tirailleurs sénégalais, zouaves, spahis, tirailleurs algériens, fantassins de l'air, sapeurs du génie, ceux des transmissions, ceux des chars, ceux de la mer, toute l'armée d'Afrique est là, derrière ces drapeaux en deuil.
Les corps de Leclerc et de ses compagnons morts eux aussi dans l'accident d'avion, sont embarqués à bord d'un navire militaire, le croiseur Émile Bertin.
Le général Leclerc est à bord de l'Émile Bertin. Les chasseurs déposent son cercueil au centre de la chapelle ardente aménagée dans les appartements du commandant.
Allô Paris, ici Alger. Vous venez d'entendre un radio-reportage réalisé à l'occasion du départ d'Alger des corps du général Leclerc et de ses compagnons.
Parti d'Alger le 3 décembre, le croiseur Émile Bertin arrive en rade de Toulon 2 jours plus tard. Et en métropole, on prépare les obsèques nationales. Mais la situation politique intérieure est extrêmement tendue. Au printemps, le socialiste Paul Ramadier, président du Conseil, a écarté les communistes du gouvernement. C'est la fin de la coalition à gauche. Et en représailles, durant cet automne 1947, le Parti communiste français se rebiffe.
Ces obsèques ont lieu dans un contexte particulier puisqu'il y a une vague de grèves insurrectionnelles lancée par le Parti communiste durant ce mois de novembre 1947.
L'historien Giraud Létang.
Tout commence très mal, entre guillemets, puisqu'il y a, le 29 novembre 1947, un des débats les plus durs, les plus violents, les plus radicaux de l'histoire parlementaire française, puisqu'il s'agit de mobiliser des réservistes pour surveiller les voies ferrées. Tellement la peur qu'il y ait des sabotages et des déraillements émanant du Parti communiste en appui aux grévistes est grande. Donc c'est un moment d'affrontement terrible, le Parti communiste est lui-même suspect, donc c'est vraiment un moment de très grande tension parlementaire qui est là. Et arrive dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale parmi une série de mesures d'état d'urgence, voire de mesures d'exception, la question, faut-il faire des obsèques nationales au général Leclerc ? Et donc là, l'Assemblée vote à l'unanimité.
Messieurs. Dans ce contexte d'extrême tension, ce vote à l'unanimité dit à quel point la mort de Leclerc sonne comme une trêve nationale. Au nom de l'ancienne camaraderie de guerre, on suspend l'affrontement entre communistes, socialistes et gaullistes. Mais du fait de la grève des cheminots, la dépouille de Leclerc doit remonter de Toulon jusqu'à Paris dans un corbillard. La lente procession est saluée sur son passage par les grévistes et elle arrive devant l'Arc de Triomphe dans la soirée du dimanche 7 décembre 1947 où une foule émue se presse.
En effet, comme montant à l'assaut du monument, ce sont depuis ce matin des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui remplissent la place de l'Étoile pour pouvoir accéder jusqu'au voisinage de la Flamme où le corps du général repose entouré de sa garde d'honneur et passer pour une dernière fois, pour un dernier hommage, devant la dépouille mortelle du libérateur.
Le lundi 8 décembre 1947, de Brest à Belfort et de Lille à Toulouse, les Français suivent les obsèques nationales de Leclerc à la radio.
Bien, vite, vite, c'est l'heure.
Ici Notre-Dame de Paris. Un peuple entier dit aujourd'hui adieu au général d'armée Philippe Leclerc de Haute-Cloque.
L'hôtel de Notre-Dame est bariolé des drapeaux de la 2e DB.
Devant le corps, le porte-fanion. 15 porteurs immobiles avec les 35 décorations du général Leclerc. Dans le chœur, à droite, Son Éminence, le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Suard. Devant le chœur, à gauche, seul, Monsieur Vincent Auriol, président de la République française.
Après l'office religieux, le corps de Leclerc longe l'hôtel de ville.
Et sur le pavé de cette place de l'hôtel de ville, où résonna le fracas des chars victorieux de Leclerc l'Africain, voici l'écho des roues de la prolonge qui emporte vers les Invalides, Leclerc, le Parisien.
rue de Rivoli, le reporter Pierre Sabag prend le relais du commentaire radio.
Je suis installé rue de Rivoli. Mon micro, oreille électrique imparfaite, vous transmettra les sons de la cérémonie. Le pas des chevaux, le crissement du gravier, la musique militaire, le rythme des pas, les obsèques nationales. Mais ce que je voudrais vous dire sur ce fond sonore, c'est ce que je vois. Ce que je vois, c'est la foule immense. Ce que je vois, ce sont les yeux embués. Ce que je vois, c'est la douleur d'un peuple. La haute douleur du peuple de France. Philippe de Haute-Cloque n'est plus. Le général Leclerc est entré dans la légende. Mais voici que s'avance tirée par six magnifiques chevaux gris la prolonge d'artillerie drapée de tricolore sur lequel repose le corps du général d'armée Leclerc. Il passe devant nous. Mon général, merci.
Article du journal Le Populaire, le 9 décembre 1947. Ainsi, par-delà la mort, Leclerc continue à rassembler les Français. Hier, les hommes de la libération. Aujourd'hui, les foules des gens de bonne volonté, ceux qui descendent dans la rue enterrer leurs héros ou pour dresser les barricades. Le bon peuple, toujours présent quand il s'agit du destin national.
Des centaines de milliers de Parisiens très émus se sont massés le long du parcours de ce cortège mortuaire. Alors, que représente Leclerc dans l'esprit des Français dans l'immédiate après-guerre ?
En 1945, d'une certaine façon, pour beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français, Leclerc est une sorte de héros absolu.
Guillaume Piketty, historien.
Il est celui qui rachète, avec ses hommes, les erreurs commises par d'autres Français, notamment en 1940, à l'été 1940. Bon. Et bien évidemment, lorsqu'il meurt de façon tragique, si jeune, je dirais la dernière touche à la statue extraordinaire est apportée. En quelque sorte, c'est l'homme qui incarne la renaissance de la France sur le champ de bataille. Une forme d'espoir, tout ça disparaît avec Leclerc, si vous voulez. C'est terrible. D'où cette émotion que vous avez évoquée, qui est énorme. C'est peut-être alors que la guerre froide est cette fois-ci officiellement en cours, alors que des divisions politiques lourdes sont en train de fracturer la France, c'est peut-être un dernier moment d'unanimité et d'union nationale.
La mort de Leclerc, c'est sans doute la fin d'une époque. Elle marque peut-être l'entrée dans l'ère des souvenirs, avec le risque d'une idéalisation, car la résistance, elle aussi, était traversée par de grandes divisions.
Ici, l'esplanade des Invalides.
Après la rue de Rivoli, le cortège mortuaire emprunte les Champs-Élysées et arrive à sa destination finale.
Le dôme, qui s'élève à 110 mètres dans le ciel, dominé par une croix, se découpe dans le ciel et sur sa silhouette se détache un drapeau tricolore en berne.
Le cercueil de Leclerc trône dans la cour des Invalides.
Au milieu de la place, la prolonge d'artillerie s'arrête, portant le cercueil du général Philippe Leclerc de Haute-Cloque, cercueil recouvert d'un drapeau tricolore frangé d'or, et sur lequel on a déposé son képi, son uniforme, sa canne et un petit bouquet de fleurs de France, bleu, blanc et rouge.
Autour du cercueil, outre la veuve et leurs six enfants, les rivaux du général Leclerc sont venus s'incliner.
Général Delâtre de Tassigny, inspecteur général de l'armée, le général d'armée Giraud, membre du Conseil supérieur de la guerre, l'amiral Thierry d'Argentlieu, grand chancelier de l'Ordre de la Libération, le général Koenig, commandant en chef en Allemagne, et tous ces officiers généraux restent maintenant autour du cercueil au garde à vous.
Après les oraisons funèbres, le cercueil pénètre sous la coupole des Invalides, dernier royaume du chevalier Picard. Quel symbole faut-il y voir ?
Sans doute le symbole que, à la fin, c'est le Leclerc militaire finalement l'emportera. Que le Leclerc politique n'a jamais vraiment été assumé, puisque les grandes figures politiques vont plutôt au Panthéon. Là, c'est aux Invalides que ça se passe, et que cette dimension de tradition est là. C'est aussi pour Leclerc, en réalité, un retour aux origines, à la dimension aristocratique, avec ce que les Invalides ont comme symbole de la monarchie absolue, de l'Empire, et finalement, qui n'ont pas toute la pompe républicaine que peut avoir le Panthéon.
La mort ne termine pas la carrière des héros, ils continuent, au-delà de la tombe, à servir la patrie à laquelle ils se sont voués.
Pierre de Gaulle.
Et c'est être fidèle à l'esprit de Leclerc que d'évoquer à travers nos larmes la flamme sacrée de l'espérance. À 45 ans, quel passé!
En décembre 1947, lors des obsèques nationales de Leclerc, aucune trace du général de Gaulle. Un absent de taille. Pour quelle raison ? Eh bien parce que depuis son retrait de la vie politique en 1946, de Gaulle refusait de participer à toute manifestation publique.
C'était fini. De Gaulle ira-t-il demain dans ce petit village de Colombey habiter une maison qu'on répare, qui est la sienne ? Cette maison qu'il n'a jamais encore habitée, mais dont il disait à Londres, « ma maison de France ».
Voilà. Un peu plus de café.
Merci, Louise.
Je vous en prie.
Mais deux ans plus tard, le 18 juin 1949, il sort de son antre, pour une occasion bien particulière, en plein Paris.
Si la ville a choisi le 18 juin pour graver sur ses murs le nom du général Leclerc, c'est parce que ce nom et cette gloire sont liés à cette date-là.
Quelques mois après la mort de Leclerc, les gaullistes veulent imprimer leur marque dans Paris.
Le 18 juin 1949, le matin est inauguré le pont de Bir Hakeim en présence du général de Gaulle et de son frère, président du conseil municipal de Paris, Pierre de Gaulle.
L'historien Giraud l'étend.
L'après-midi, une autre manifestation est prévue, c'est la transformation de l'avenue de la Porte d'Orléans en avenue du général Leclerc, donc dans le 14e arrondissement de Paris, entre Denfert-Rochereau et la Porte d'Orléans. Et cette manifestation va être utilisée par les militants du Rassemblement du Peuple Français, donc le Parti gaulliste, qui est contre la 4e République à cette époque, comme un moment de démonstration de force politique. À tel point que cette démonstration de force est crainte par le Parti communiste français, qui envoie ses militants empêcher que la démonstration de force ait lieu. Tout ça se termine par un des plus grands déploiements de CRS de l'histoire de Paris, à tel point même que le ministre de l'Intérieur, Jules Moc, place les CRS et commande depuis le clocher de l'église Saint-Pierre de Montrouge. Tant on a peur du putsch, qu'il soit gaulliste ou communiste. Donc c'est une mémoire de militant, une mémoire d'affrontement hein, qu'il peut y avoir autour de la figure du général Leclerc.
La 4e République, un régime parlementaire, doit affronter la contestation des gaullistes qui veulent un régime exécutif. Et la mémoire de Leclerc se retrouve au centre de cette querelle politique. Trois ans plus tard, la République s'est un peu stabilisée et elle décide de se réapproprier la figure de Leclerc par le biais d'une décision symbolique.
Le général d'armée Philippe Leclerc de Haute-Cloque, celui dont la légende avait pris naissance dans les sables de Couffrat.
Archives RTF, 29 novembre 1952.
Il va être élevé aujourd'hui à la dignité militaire suprême, le maréchalat à titre posthume, mais il restera dans nos cœurs, dans les cœurs de tous les Français, le général Leclerc.
L'élévation au maréchalat, c'est une idée de Raymond Drosne, donc un des compagnons de Leclerc qui est alors député, et qui va trouver une oreille attentive chez René Pleven, ancien compagnon de Leclerc des débuts, mais désormais très éloigné du gaullisme, et homme politique de premier plan de la 4e République. Donc tous espèrent que le maréchalat permette de recréer de l'unité autour de Leclerc, de le ramener dans un rail républicain, puisque dans la vision des hommes de la 4e République, sont contre la République et le PCF et le parti gaulliste.
Au centre même de la cour, tout à l'heure, le président Vincent Auriol remettra à Madame Leclerc le bâton de maréchal que le gouvernement de la République et le peuple de France unanime lui donnent aujourd'hui.
Général d'armée, Leclerc de Haute-Cloque, au nom de la République française, nous vous conférons la dignité de maréchal de France.
Vincent Auriol, président de la République.
Madame la maréchale, je vais déposer en vos mains les insignes de cette dignité suprême que la France unanime, par ses représentants et son gouvernement, ont conféré à l'illustre soldat, votre époux.
Donc, cette élévation au maréchalat a lieu au terme d'une loi qui, elle aussi, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, mais va fracturer l'association des anciens de la 2e DB, puisque ceux qui étaient dans la France libre refusent cette étiquette, parce que pour eux, il n'y a qu'un maréchal, c'est Pétain. Et ils appellent Leclerc le général, le patron, mais certainement pas le maréchal. Alors que d'autres vont l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle, dans les communes de France, vous avez parfois des rues ou des places du général Leclerc et des rues ou des places du maréchal Leclerc. C'est en fait parce que la section locale des anciens de la 2e DB n'était pas forcément d'accord avec cette élévation au maréchalat.
Après cette reconnaissance républicaine en 1952, avec cette élévation au grade de maréchal, quelle a été l'image de Leclerc au sein de la société française dans les années 50 et 60 ?
Alors, c'est une image qui va s'appuyer sur deux éléments. Une mémoire plutôt militaire qui va être très importante dans les armées françaises, avec des unités héritières qui vont garder les insignes, les symboles de la 2e DB. C'est aussi une mémoire, on s'en souvient peut-être moins, qui s'est beaucoup appuyée sur la culture de masse. En 1948, on fonde par exemple la Kermesse aux étoiles. C'était une sorte de festival, mais qui réunissait 500 000 personnes au début des années 50 à Paris, puisque la 2e DB, ayant eu dans ses Jean Gabin et Jean Marais et d'autres stars vont venir lever des fonds pour les anciens de la 2e DB.
Pendant ce temps, les acteurs anciens combattants de la 2e DB se réunissaient pour lancer les invitations de leur kermesse aux étoiles. Et Claude Dauphin, Jean-Pierre Aumont et Jean Gabin n'ont plus maintenant qu'à attendre avec confiance les réponses de leurs amis français et étrangers conviés à prêter leur concours pour venir en aide aux anciens de la division.
Et donc, va y avoir un attrait pour la culture de masse. Mais un attrait qui vient de loin, qui vient même de Leclerc. Puisque, par exemple, en 1947, Leclerc va tourner un film où il joue son propre rôle pour avoir des scènes. Donc, les scènes qu'on voit aujourd'hui de la libération de Paris, où il est dedans, ont été retournées en 47. Donc, la 2e DB s'est appuyée sur une mémoire militaire, mais aussi sur une culture de masse, en proposant un grand nombre de publications, notamment tournées vers la jeunesse, en faisant appel à des réseaux puissants dans le monde de la culture, à travers des vedettes de l'époque, à travers des publications de l'époque, à travers des académiciens, des écrivains. Donc, toutes les années 50 sont dominées, je dirais, par ces deux moteurs. D'un côté, la mémoire militaire, de l'autre, la culture de masse, parce que, précisément, ça fait de l'unanimité, ça crée de l'unité.
C'est aux camarades tombés pour la libération que ce film est dédié. Mais aussi à ceux-là qu'il ne faut pas oublier.
En 1947, Leclerc dédie ce film aux anciens de la 2e DB.
Ils étaient les meilleurs d'entre nous. Ils restent les plus chers à nos cœurs. C'est pour eux surtout que nous avons voulu ce film qui est un témoignage. Pour eux et pour tous ceux qui combattirent des heures sombres de 40 aux jours glorieux de la libération.
En fait, tout va commencer à s'estomper, je dirais, à partir de 1964, avec le fameux discours de Malraux pour la panthéonisation de Jean Moulin.
Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Dans la mémoire gaulliste, c'est le passage de la célébration de la résistance extérieure et intérieure à une focalisation sur la résistance intérieure. Pourquoi ? Parce qu'en 1964, la décolonisation est passée par là. Les lieux de mémoire dont est porteur Leclerc, le Tchad, le Fezzan, ne sont plus sous contrôle français. Que l'Afrique du Nord, si importante pour lui, est désormais indépendante. Donc par conséquent, il faut une mémoire métropolitaine. Parce que ce qui compte pour le général de Gaulle, c'est désormais la puissance de la France, la grandeur, comme il dirait, ne vient plus de l'Empire, elle vient de son industrie, de la dissuasion nucléaire, mais en tous les cas de l'unité de son peuple, qui peut davantage se faire avec la résistance intérieure.
Question pas simple à l'historien que vous êtes, Giraud Létang. À votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'incarne le général Leclerc dans la mémoire nationale ?
Je dirais que Leclerc est un inconnu célèbre, en fait. On voit son nom partout. Il a beaucoup de noms de rue, mais finalement, de moins en moins de gens savent ce qu'il y a derrière. Malgré tout, ce qu'a fait Leclerc à travers ses discours, à travers l'image aussi qu'il a pu susciter, alors même que les gens ne savent pas forcément, à part peut-être localement, comment se sont passés les combats de Normandie, la libération de Paris ou la libération de Strasbourg, la dramaturgie inventée par Leclerc de la libération reste toujours la nôtre. C'est pour ça que, par exemple, que la mémoire du débarquement de Provence est beaucoup moins forte aussi dans la... C'est parce que, certes, il y a eu l'attention des Américains avec le cinéma américain, etc., mais aussi parce que la 2e division blindée est beaucoup plus connue que la 1ère armée, qui est pourtant plus importante, qui remporte des victoires françaises. Mais voilà, les symboles qu'a voulu manier Leclerc pour imposer son commandement continue à vivre aujourd'hui et conditionne la façon dont on se représente la libération.
Les côtes de France nous apparaissent avec le jour. Assoupesée cette terre qui rompt notre exil, nous comprenons que nos épreuves avaient vraiment un sens, nos efforts vraiment un but. À respirer cet air si léger et si pur, nous sommes tentés de dire comme le général ce matin-là, ça fait bougrement plaisir, hein ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du destin de ce général Leclerc, mort dans la force de l'âge ?
Alors, c'est un destin vraiment singulier, parce qu'il prend à contre-pied son héritage politique.
L'historien Eric Jennings.
C'est quelqu'un qui aurait, très logiquement, compte tenu de son éducation, de son milieu, il aurait très bien pu finir dans ces milieux ultra-conservateurs métropolitains qui soutenaient le régime de Vichy, voire pire, voire les ultra-collaborationnistes de Paris. Ce n'est manifestement pas le cas, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui mène un combat acharné contre le Troisième Reich et contre l'Italie fasciste. Il avait ses objectifs, et ce qui est incroyable, c'est qu'il les tient. L'épopée de la France libre en Afrique est singulière en partie parce que c'est une série de réussites. Brillantes victoires depuis Koufra jusqu'au Fezzan, en passant par la Corne de l'Afrique. Ensuite, vous avez Bir Hakeim, et ensuite, tout ça va se déplacer donc vers l'Italie, vers la Syrie, le Liban. Vous avez ces victoires consécutives assez remarquables.
Enfin, que dire d'autre ? Sur le chemin politique du général Philippe Leclerc de Hauteclocque.
Leclerc n'a pas livré de souvenirs ou d'écrits théoriques sur son cheminement. Donc, il nous reste juste qu'à interpréter Mais là où, je dirais, la puissance du mythe gaulliste est grande et a permis d'intégrer Leclerc, c'est que finalement, qu'est-ce que c'est le mythe gaulliste dans la guerre, si on cherche à le résumer? C'est la rencontre entre l'idée de république et l'idée de chevalerie. On le voit avec l'ordre de la libération, au fait d'utiliser des notions comme l'honneur, par exemple. Eh bien, le mythe gaulliste de la guerre a permis sans doute à Leclerc de revenir pleinement dans le champ républicain.
Propos de Leclerc, rapporté par le général Guillebon en 1962. Tout ce que j'ai fait de grand, je l'ai fait en désobéissant.
Nous avons débuté cette série au château de Tailly dans la Somme. Et c'est à La Haye-les-Roses, dans le Val-de-Marne, que nous allons la terminer. C'est là-bas, au début du printemps, que notre reporter Martine Abbat avait rendez-vous avec une mémoire vivante.
C'est le mois de mars, il fait gris, pluvieux, et je suis à La Haye-les-Roses, dans le quartier des Castors. J'ai rendez-vous avec un vieux monsieur de 99 ans qui habite un pavillon avec un petit jardin bien soigné, un portail. C'est un pavillon qu'il a construit de ses mains dans les années 50. Et ce vieux monsieur, c'est Serge Finot, un ancien de la 2e DB.
Bonjour, Martine.
Oui, ben Evelyne, ravie.
Voilà.
Bonjour
monsieur. Bonjour, ravi de vous rencontrer.
Voilà.
Alors on y va.
Serge Finot, né en 1925, est un jeune serrurier sous l'occupation, installé au Perret, dans les Yvelines. En 1943, il refuse de participer au STO et se réfugie dans une forêt près de Rambouillet. À l'arrivée des Alliés, au printemps 1944, Serge Finot, 19 ans, veut s'engager dans les combats et il enfourche son vélo, direction le bureau de recrutement.
J'ai pris mon vélo, c'était à Rambouillet, c'était à la porte du château de Rambouillet.
Laisse ton vélo ici.
Il y avait un étal, quoi, des tréteaux puis une planche, puis un officier qui était là. Ah, je vais vraiment m'engager.
Comment vous aviez su que la 2e DB embauchait?
Ah ben, au flanc, hein.
Voilà Serge Finot, engagé volontaire au sein de la 2e DB.
Emportez toutes vos affaires! Rassemblement dans 20 minutes!
Qu'est-ce qui se passe?
Le bataillon fait mouvement, départ dans une heure, grouille!
On prévient pas les parents? Allez, allez!
Donc vous êtes parti avec la 2e DB?
Alors voilà. Ah, mais moi la 2e DB, c'était pas... on ne connaissait même pas Leclerc. À peine son nom. Ah, hein.
Et vous l'avez souvent croisé, le général Leclerc?
Oui, parce qu'on a fait deux ou trois revues.
Les revues, c'est quand on passe en revue toute la troupe, c'est
oui.
Ça?
Quand il regarde, quand ça finissait, ses yeux bleus, il vous perçait.
À mon commandement!
Ah, Leclerc, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein.
Il apprend à conduire une Jeep et il est placé sous les ordres du lieutenant Robert Poignet.
Et après, donc le fait que vous sachiez conduire cette Jeep, hein, ça a été votre rôle pendant toute la campagne.
J'étais son chauffeur jusqu'au bout.
Vous étiez chauffeur du lieutenant?
Oui.
Et c'était quoi vos missions?
On partait en Jeep. Alors il avait sa planche, il avait tout un tas de plans, et on allait dans les premières lignes. Et tous les soirs ou tous les deux jours, il allait au PC à Leclerc.
C'est-à-dire qu'il faisait des relevés topographiques, il regardait les positions?
Voilà, exactement.
Et ensuite il allait en référer à Leclerc?
Voilà. Et après, je sais pas ce qu'ils en tiraient, mais moi la nuit, avec la Jeep, j'allais porter des plis, des...
Devant, dans les lignes de front.
Ouais.
Donc vous faisiez des allers-retours entre le PC de commandement et la ligne de front.
Voilà.
Nuit et jour.
Oui, ah oui, il prévoyait des choses que j'allais porter, moi, la nuit.
Et vous êtes allé jusqu'où, comme ça, avec la deuxième DB?
Ben, jusqu'à chez Hitler.
Et voici un autre homme de la division Leclerc. Alors vous, vous êtes content d'être ici maintenant?
Très content.
Vous appelez comment d'abord?
Roger Moisan.
Archives RTF, 5 mai 1945.
Roger Moisan, vous êtes au groupement tactique?
Groupement tactique.
Et vous avez participé également à l'opération?
Également à l'opération.
Et vous avez descendu des SS avec votre mortier?
Avec mon mortier, oui.
Eh bien bravo, il y en a encore un autre ici. Alors comment vous appelez-vous?
Roger Raspiller.
Roger Raspiller, vous voulez dire quelque chose? Dites quelque chose, allez.
Moi, je suis content d'avoir été en Allemagne pour leur faire voir à ces sales boches qu'on a fait au moins autant qu'ils en ont fait chez nous.
Bravo. Bon, eh bien voilà, je vais tous vous quitter. Je vous souhaite bonne chance, bon retour et encore une fois, je vous dis bravo.
Serge Finot, l'un des derniers survivants de la 2e DB, appartenait à la poignée de soldats qui ont escorté Leclerc jusqu'au Nid d'Aigle.
C'était quoi votre sentiment d'être là?
Vaincre l'Allemagne, hein, c'était ça.
C'était beaucoup de joie?
Ah oui, quand même une vengeance, parce que, vous savez, j'ai vu opérer quand ils ont arrêté les Juifs. Hein. Oh, le médecin, sa femme, les deux bons, sont venus les chercher, les emmener.
C'était le médecin du Perret?
Oui.
Et vous les avez jamais revus?
Lui, il est revenu, mais sa femme avait été brûlée, les enfants aussi, et il s'est suicidé.
Cette époque sombre ravive d'autres souvenirs, plus joyeux pour Serge Finot. Comme au printemps 1945, lorsque la division Leclerc reçut la visite inopinée d'une femme hors du commun.
On avait une revue sur un terrain d'aviation. Oh, oh, dis donc Marlène, la Marlène. C'était Marlène Dietrich, ma copine à Gabin.
Qui était où, Gabin?
Il était dans les chars.
Dans la deuxième DB.
Oui, oui.
Et donc Marlène Dietrich venait voir Jean Gabin.
Voilà. Alors elle courait pour aller voir Gabin. Alors eux, ils disaient un autographe. Elle a signé. J'ai pris un billet de Saint-Marc. Puis alors, voici.
Vous l'avez encore?
Ah oui.
Et c'était en territoire allemand?
Ah oui, oui.
Elle était belle?
Ah oui. Ah, c'est une belle fille. Hein.
You'll try in vain, you can't explain the charming, alarming blonde women. They fascinate, they captivate. Beware the amazing blonde women.
Vous avez 99 ans, Serge Finot. Vous repensez souvent à cette époque?
Ah oui.
Tous les jours?
Presque. En m'endormant. Ça revient.
C'est des images joyeuses ou des images...
Oh, il y a tout. Oh, il y a tout.
C'est beaucoup de fierté pour vous?
Ah oui, quand même. Oui. Je voulais la croisière, j'en ai plus.
Et vous l'avez eue?
Oui. Ah, j'ai toujours eu.
À 99 ans, décoré de la Croix de guerre, Serge Finot demeure une incarnation de cette deuxième DB, symbole d'une France plurielle.
Les gens qui vont former la deuxième DB sont un amalgame de gens d'origine très différente. Il y a des troupes coloniales, il y a des officiers venus de France, il y a des gens qui viennent d'Afrique du Nord. Enfin, c'est une sorte de melting pot de différentes catégories. Et donc, qui montre qu'on peut arriver à reconstruire une armée avec des gens très différents. Et ça, c'est l'idéal de la République.
Christophe Charles, historien.
La Révolution française, si elle a réussi, c'est parce qu'elle a mobilisé des gens de toutes sortes qui se sont défendus contre les forces d'Ancien Régime qui voulaient renverser la Révolution française. Donc là, c'est la même chose. À travers l'expérience des forces françaises libres, on a un amalgame de gens très divers, certains des aristocrates, d'autres des gens très populaires, d'autres des gens issus des populations colonisées. Donc on a un peu ce nouveau melting pot un peu de la Révolution française qui va se réaliser à travers cette expérience combattante.
Donc c'est un peu une expérience républicaine aussi, d'un certain point de vue, et ça a marché. Donc ça a dû convaincre Leclerc qu'on peut mélanger des gens très différents, qu'il n'y a pas à rester sur des préjugés sociaux ou des inégalités. Et on sait qu'il avait un rapport avec ses troupes extrêmement personnel, enfin... pas du tout distant, pas du tout lointain, mais au contraire, il avait un rapport très direct, un peu comme pouvait avoir Bonaparte dans certaines circonstances. Donc je crois que c'est un peu une expérience constructive de sa personnalité qui va le convaincre que finalement, il y a des choses dans la République ou dans l'armée républicaine qui sont valides.
L'épreuve de la guerre, c'est comme une sorte d'apprentissage de la société française.
Oui, enfin, d'une nouvelle société française moins clivée, moins hiérarchisée, fondée sur la volonté de se battre avant tout et sur un idéal commun. Donc c'est effectivement une expérience révolutionnaire d'un certain point de vue. Enfin, pour lui, c'est révolutionnaire puisque c'est le contraire de ce qu'était son héritage. Et pour la France, c'est aussi révolutionnaire puisque c'est une rupture avec une armée qui a failli et une autre tradition militaire plus compassée. Donc il y a une part aussi de révolution personnelle, mais aussi de révolution collective dans une conjoncture où tout bouge. Je pense que c'est ça la grande spécificité. Tout a été bouleversé dans la Deuxième Guerre mondiale. Les rapports entre civils et militaires, puisque des civils deviennent des résistants et parfois des militaires. Les militaires sont parfois surclassés par certains groupes qui ne respectent plus leurs ordres. Et puis, celui qui commande tout ça, c'est un général à titre temporaire et pas du tout un général à 5 étoiles. Donc, tout est bouleversé, en fait.
Dans ces circonstances exceptionnelles et dans le sillage de De Gaulle, Leclerc a émergé comme une figure providentielle. Que représente pour l'historien une telle figure ?
Une sorte de merveilleux cas d'étude de héros.
Guillaume Piketty.
Mais que je prends pas en admiration devant une statue, que je prends en historien, en anthropologue, qui s'interroge sur ce que sont les composantes de l'héroïsme dans cette période durant laquelle Leclerc vit, et comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quels sont les ressorts, et pourquoi ça marche si bien au sein de la population française ensuite.
Peut-être qu'il est héroïque à la place de nous tous, peut-être qu'on aime bien avoir un héros parmi nous.
Alors, le héros c'est quoi ? Le héros c'est, ou l'héroïne, c'est une individualité qui va, d'une certaine façon, incarner une partie des valeurs d'une société donnée. Et en ce sens, Leclerc, le Leclerc de la Seconde Guerre mondiale, incarne un certain nombre des valeurs d'une France abattue, mais qui ne demande qu'à renaître. Et en ce sens, il est incontestable. Mais joue également, très vraisemblablement, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, en chaque individu qui le voit agir, cette idée, ah oui, il fait ce que j'aurais aimé faire, ou ce que j'aimerais accomplir un jour, il incarne une forme d'exemple. Oui, absolument.
Sa mort prématurée à 45 ans a figé Leclerc dans un statut de héros national indiscutable.
Qu'est-ce qui se serait passé après ? On ne peut évidemment pas faire de pronostic. Alors évidemment, on peut regretter qu'il soit mort, bien entendu, mais peut-être s'il avait survécu et s'il avait connu la période difficile qui va s'ouvrir avec la décolonisation, peut-être aurait-il été face à des choix très très difficiles. On voyait déjà ses problèmes quand il a eu à gérer la situation en Indochine. Donc, c'est toujours triste de mourir, mais il y a parfois des morts qu'il vaut mieux avoir avant des catastrophes encore plus graves.
Et devant un tel destin, les historiens doivent se tenir à la bonne distance pour éviter la géographie.
Ah ben c'est une difficulté, vous avez raison. C'est un devoir que l'on a. Revenir aux écrits, revenir aux sources, toujours.
Christine Lévis-Touzet, historienne.
Et puis revenir aussi à ce que disaient ses proches, ses hommes. On pense à Adolphe Vézinet, général Vézinet, qui a écrit une biographie sur son chef et qui disait que les grands hommes n'ont pas besoin d'être grandis.
Propos du général Vézinet, 1974. La fierté d'avoir connu et servi un tel chef et un tel homme ne nous a pas empêchés d'essayer de le représenter tel qu'il était, avec ses lumières mais aussi avec ses ombres. Il était trop grand pour avoir besoin d'être idéalisé.
Un homme comme Leclerc, on ne comprend sa grandeur que si on comprend là où il a pu commettre des erreurs.
Jean-Christophe Notin, biographe de Leclerc.
Donc il faut être très lucide sur ce qu'ils ont fait. Mais ça n'en reste pas moins une des pages, pour moi, hein, vraiment les plus magnifiques de l'histoire de France. Il n'y a pas d'équivalent à la France libre, à la Résistance. Je ne vois pas vraiment d'équivalent.
L'exclusion des soldats subsahariens de la 2e DB, son intransigeance gaulliste, ses colères homériques et son attachement à l'empire colonial bien de son temps, Leclerc est loin d'être sans reproche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant du rôle de De Gaulle, chef de la France libre, dans la vie du général Leclerc ?
Le général de Gaulle incarne pour le général Leclerc ce qu'il y a de plus noble dans la France, dans le service des armes, et même dans une vie, je dirais. À quoi sert une vie ? À quoi on sert ? C'est ça le lien Leclerc. Ça dépasse vraiment très largement toutes les questions politiques et militaires.
Le général de Gaulle, dans l'épopée Leclerc au Sahara, 1945. Enfant de France, rêvez d'être un jour des Leclerc. Apprenez ce que vaut une libre volonté française.
C'est la phrase magnifique du général de Gaulle. C'est ça. Quand il dit « Enfants de France, rêvez tous un jour des Leclerc », c'est pas rêver tous d'être des militaires, d'être des généraux. C'est rêver d'aller au bout de votre destin, de prendre tout en main, de tout faire pour accomplir votre destin. Et Leclerc, c'est ça.
Nous arrivons tout doucement au terme de cette série consacrée à Philippe de Hauteclocque. Et pour amorcer notre conclusion, une première question posée à nos historiens. Que pense-t-il de notre titre ? La cavale du général Leclerc.
Que du bien, parce que je dirais la cavale invoque plusieurs choses dans la perspective du général Leclerc.
Giraud Létang.
Oui, Leclerc a été traqué. Leclerc n'a pas été un héros célébré. Il a été aussi traqué par Vichy. Donc oui, Leclerc a été en cavale. Par ailleurs, la cavale évoque, pour le militaire qu'il est, l'arme blindée cavalerie. Et donc, le fait de passer de l'instruction à cheval, ensuite au blindé, est très logique. La cavale, c'est aussi l'imaginaire équestre qui est très important chez Leclerc, que ce soit le châtelain sur son cheval, comme l'officier à la tourelle de son char. Leclerc fait souvent des liens pour concilier cet imaginaire. Et enfin, je pense que la cavale de Leclerc, c'est que sans jamais l'assumer, c'est aussi comment s'évader de ses propres préjugés.
Que pense à présent l'historien Eric Jennings du choix de ce mot « cavale » ?
Moi, ça me semble très adapté, parce qu'en Afrique, en tout cas, il s'est agi d'une série de courses, en effet. D'abord, l'incroyable pari de pouvoir déloger Vichy du Cameroun avec une poignée d'hommes. Ensuite, l'incroyable traversée de plus de 1000 km de désert du sud vers le nord pour s'emparer de la forteresse de Koufra. Ensuite, l'épopée prodigieuse du Faisan. Tout ça, ce sont, j'allais dire, presque des rallyes. Enfin, ce sont des courses, des épopées, dans une guerre qui est celle du mouvement. On n'est évidemment pas à Stalingrad, ni dans les effectifs, ni dans les pertes, ni dans l'urbanisme. On est dans une guerre de mouvement, dans la guerre du désert. Et dans cette guerre du désert, je trouve que le titre de cavale du général Leclerc est tout à fait approprié.
Ce mot cavale m'a un peu troublé au départ.
Guillaume Piketty.
J'attends plutôt un mot tel que chevauché, qui correspond au cavalier Leclerc, qui correspond au grand général de l'arme blindée, Leclerc. Mais en même temps, le mot cavale est en fait merveilleux, parce que la cavale, c'est la cavale du prisonnier évadé, et ça c'est Leclerc lorsqu'il quitte la France, et c'est aussi la cavale du général de division qui, par moments, n'en fait qu'à sa tête. Avec ses chefs, notamment américains, mais pas seulement, qui se demandent de, par moments, mais nom d'un chien, où est-il encore passé avec ses hommes ? Et donc je trouve que pour ces deux raisons, le mot cabale est très bien choisi.
80 ans après les débarquements de Normandie et de Provence, 80 ans après la libération de Paris, il faut garder à l'esprit la bravoure de celles et ceux qui ont fait le même choix que Leclerc.
Henri, je voulais te dire, je vais à Londres. Je vais rejoindre le général de Gaulle.
Toi ?
Ces hommes et ces femmes qui se sont engagés en métropole ou ailleurs,
j'ai fait un choix.
Tout au début de la guerre ou plus tard, peu importe,
c'est horriblement douloureux.
L'ont fait pour des raisons essentielles. Et ils ont tout mis sur la table. C'est-à-dire qu'ils ont très rapidement compris qu'ils ne verraient pas forcément la fin de la guerre, que pour un certain nombre d'entre eux, la mort serait accompagnée de souffrances épouvantables, parce que les Allemands n'en faisaient pas mystère, hein. évidemment, c'était logique de la part des Allemands, et des nazis en particulier. Et donc il fallait croire très fort à des idées très très essentielles pour oser tenter l'aventure. Et je partage ces idées. Aurais-je eu le courage de m'engager comme ils l'ont fait ? Alors là, personne ne peut le savoir.
André Malraux, 1958.
Aucun des combattants de la 2e DB qui sont ici n'a oublié le sentiment qu'il éprouva lorsque sa division se trouva pour la première fois en face des chars allemands. Aucun résistant n'a oublié le sourire crispé qu'il sentit passer sur ses lèvres lorsqu'entré la veille dans la résistance, ses revolvers en poche ou non, il rencontra le premier officier allemand. Et le sentiment qu'il éprouva lorsqu'il échangea les signes de reconnaissance avec son premier camarade inconnu. Sentiment d'autant plus profond qu'ils étaient liés en 44 à la menace de la torture, à la connaissance des camps d'extermination qui déployaient jusqu'à la Baltique l'atroce cortège d'ombre qui attendait les vaincus. Survivants de la résistance, mes frères dans l'ordre de la nuit, vous pouvez vraiment dire, sans avoir besoin d'élever la voix, que vous avez combattu en face de l'enfer.
Pour clore cette série consacrée au général Leclerc, que dire ? D'abord, retenez que Philippe de Hauteclocque a fait le nécessaire, contre l'avis de son père, pour faire changer son nom à l'état civil après-guerre.
Lettre du ministre de la Justice, Pierre-Henri Tedjen, à Leclerc, le 14 décembre 1945. Mon général, je suis très heureux de vous faire savoir qu'un décret sera pris très prochainement pour vous autoriser à vous appeler légalement à l'avenir Leclerc de Hauteclocque. Cette mesure s'étendra évidemment à vos 6 enfants. J'ai tenu personnellement à reconnaître les mérites exceptionnels que vous vous êtes acquis au cours des présentes hostilités et à confirmer légalement le nom si glorieux sous lequel tous les Français vous connaissent.
L'aristocrate Picard est donc devenu Philippe Leclerc de Hauteclocque, comme la concrétisation officielle de sa mutation. Au nom noble hérité de ses ancêtres, il a accolé un nom d'origine populaire, comme l'étaient la plupart des soldats de sa 2e DB.
Dalmazie René, sergent-chef.
Mort au champ d'honneur.
Bergor Marcel, 2e sapeur.
Avec ce changement de patronyme, Leclerc semble nous dire qu'il a compris que la France n'est pas une nation monolithique, contrairement à ce que pensent les corbeaux noirs du nationalisme français.
J'ai eu la joie de voir que tous, militaires et civils, ne poursuivent qu'un but, la lutte. Soyez rassurés, la France possède encore des défenseurs.
L'épreuve de la guerre lui a fait comprendre que la France est une société plurielle et complexe, jusqu'à renier son vieil héritage anti-républicain porté par l'Action française. Enfin, pour finir, en miroir au cheminement politique de Philippe Leclerc de Hauteclocque, je cède à nouveau la parole à André Malraux. L'extrait de ce discours, prononcé en 1958, résonne dans notre présent. Et comme d'habitude, je vous laisse juge.
Vieux peuple de France, séculairement divisé, comme il est temps de ne plus attendre de l'avenir tes réconciliations, comme il est temps de comprendre pourquoi, sur le chemin qui va de l'Arc de Triomphe au rond-point de la Défense, le gouvernement veut prolonger une avenue Jean Jaurès par une avenue du général Leclerc.
La cavale du général Leclerc. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Anne Kessler et Laurent Stocker, sociétaires de la Comédie française. Reportage, Martine Abbat. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. La cavale du général Leclerc est un podcast original de France Inter.